Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Frère Philippe, bonjour.
Nous sommes dans la profession de la foi chrétienne. Et comme le credo commence, nous croyons « Je crois en Dieu »,« Je crois en un seul Dieu ».« Dieu est au centre de la foi de l'homme » et on essaie de comprendre. Mais ce n'est pas un Dieu impersonnel, ce n'est pas un Dieu anonyme. Croire en Dieu, ce n'est pas une vague idée, ce qui aujourd'hui n'est pas si simple que ça. Certains vont dire « je crois en Dieu, je crois en une force au-dessus de moi ».
Force cosmique, oui.
Tandis que pour le peuple d'Israël et pour nous chrétiens, Dieu révèle son nom. Dieu, nous avons vu qu'il faisait alliance, font alliance, des parties qui se mettent en présence, donc des personnes qui se rencontrent d'une certaine façon. Donc Dieu révèle son nom et il y a le moment le plus fondamental de la révélation, c'est la révélation à Moïse.
Exactement, oui. Moïse qui va être comme le médiateur, le premier médiateur entre Dieu et les hommes. L'épître aux Galates n'hésite pas à lui donner déjà ce nom qui sera encore plus fortement affiché pour notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment. Mais il est le premier à passer, je dirais, d'une connaissance assez général du Moyen-Orient, de celui qu'on pourrait appeler El, Allah, Elohim, à vraiment celui qui dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, inscrit dans l'histoire, mais inscrit dans une histoire dans laquelle il accompagne son peuple et dans laquelle il dit qu'il est en profondeur celui qui marche avec ce peuple. Et il dira cette parole très forte qui nous permet de dire de lui qu'il est le Seigneur, Adonai, en hébreu. Et ce nom, il le spécifie dans le buisson ardent en disant « Tu diras, je suis celui qui suis. Ie, Asher, Ie. » C'est-à-dire, il prend le verbe être, ce qui est très important, parce que le verbe être, c'est le verbe par excellence. Quand on fait l'expérience de ce qui est, il y a quelque chose de nouveau. Avant, on peut toujours prendre connaissance du passé, on peut avoir envisagé l'avenir, mais qu'est-ce qui finalement nous rassemble tous? C'est le temps présent, c'est ce qui est. Et voilà que Dieu se présente à Moïse comme celui qui est l'être par excellence. Je suis celui qui est. Et en même temps, il annonce qu'il sera, puisque ce verbe « ie » est une forme donc de l'imperfectif du verbe « être ». On peut très bien dire aussi « je suis celui qui sera avec vous ». Et d'une certaine manière, c'est un présent orienté vers le futur, c'est un présent de présence totale, à tel point que un des conciles, c'était le catéchisme romain dans la suite du concile de Trente qui le dit d'une manière un peu rassemblée, la foi chrétienne confesse qu'il y a un Dieu unique par nature, par substance, par essence, ce sont des mots un peu savants que nous avons déjà rencontrés, mais qui forment que c'est tout l'être. Tout l'être remonte à cette transcendance divine qui se révèle et qui se révèle proche. Ce n'est pas un Dieu lointain, c'est un Dieu qui se fait proche et qui se révèle concrètement à Moïse, de telle sorte que Moïse va pouvoir dire « j'ai parlé à Dieu face à face, comme un ami parle avec son ami ». C'est quand même extraordinaire.
En t'écoutant, des réflexions me viennent, peut-être un peu fumeuses. Je pense à... C'est dire que Dieu est, Dieu a du poids. Je pense à sa gloire. On dit le kabod en hébreu, c'est ce qui a du poids.
C'est exactement ça. C'est la signification de kabod. Oui.
Et tout d'un coup me venait le récit dans le début de l'île de la Genèse, le récit de Babel, où, si je ne me trompe pas, voilà, que les hommes veulent bâtir une tour, mais ils veulent se faire un nom derrière ça. Comme si ils se sentaient, j'ai l'impression, comme s'ils se sentaient insuffisants, comme s'ils n'avaient pas ce poids de Dieu et qu'ils voulaient en avoir au moins autant, si ce n'est plus.
Je pense effectivement qu'au moment de Babel, les hommes ont pris conscience de leur insuffisance, qui était tout simplement, je dirais, dans leur ADN, parce qu'ils étaient fils d'Adam, petits-fils d'Adam, et qu'ils avaient reçu en eux un pactage qui faisait qu'il y avait des déficiences en eux, des déficiences non seulement naturelles, mais morales. Et ils le sentaient si fort qu'ils se sont dit, en nous unissant les uns et les autres, on va faire comme un puzzle. Vous savez, un puzzle est plus beau quand on met les pièces côte à côte. Et cette unité que nous allons créer nous-mêmes, cette union que nous allons faire, va nous faire accéder à une unité supérieure. Et c'est là que Dieu leur a dit, non, c'est de l'orgueil ça. L'unité, vous ne l'aurez que si je vous la donne. Et c'est moi qui vais vous la donner. Et c'est comme ça qu'il a élu le peuple hébreu, le plus petit parmi les peuples. Il a voulu montrer que ce n'était pas une question de grandeur et de force, mais un petit peuple à qui il a donné sa révélation en vue d'atteindre tous les autres hommes qui puissent s'y agréger et d'être tous les enfants d'Abraham. Disons que nous avons comme père Abraham.
Ce qui nous conduit à bien nous redire que un péché profond, le péché profond de l'homme, c'est de ne pas reconnaître que Dieu donne, que Dieu peut lui donner le fait être. Dieu qui est, celui qui est, est aussi celui qui va permettre à l'homme d'être vraiment ce qu'il doit être. C'est sa vocation que Dieu donne à l'homme.
Voilà, exactement. Il ne s'agit pas d'une sorte d'auto-divinisation, d'autosuffisance. Le pape François est très sensible à ces expressions dans ses catéchèses où il voit une auto-référence. L'homme est très facilement auto-référent. Et à partir du moment où on est croyant, on n'est plus des auto-référents. On se réfère au nom de Dieu. C'est dans le nom de Dieu que nous sommes sauvés. C'est dans le nom de Dieu révélé en Jésus-Christ que nous trouverons la plénitude du salut. Mais déjà, être dans le nom de Dieu, c'est énorme. Quand nos frères aînés dans la foi entendent ce verset de Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, ils le disent en fermant les yeux. Ils se mettent trois doigts sur les deux paupières et ils répètent le schéma Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur 1, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, c'est-à-dire ce que nous avons en nous de plus être, il faut le donner à Dieu pour qu'il nous permette d'être selon son plan d'amour, son dessein d'amour et nous mettre vraiment à notre place, lieutenant de Dieu sur la terre et au ciel dans la divinisation qu'il va nous accorder, mais non pas dans une auto-déification qu'on acquérerait par la force de nos propres efforts.
Le catéchisme, à l'article 208, dit bien ça, reconnaître ce qu'est Dieu, que Dieu est, c'est reconnaître notre place, mais ce n'est pas une place de misère. Alors je lis, « Devant la présence attirante et mystérieuse de Dieu, l'homme découvre sa petitesse, ce qui pourrait des fois gêner l'homme de se dire « petitesse, petitesse ». Mais devant le buisson ardent, Moïse ôte ses sandales et se voile le visage face à la sainteté divine. » Devant la gloire du Dieu trois fois saint, Isaïe s'écrie « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. » Et bon, l'article dit d'autres choses, avec Pierre qui va s'écrier devant le Seigneur « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Mais finalement, la grandeur de Dieu, l'être de Dieu, n'est pas au détriment de l'homme, au contraire.
Oui, oui, à tel point qu'un de nos grands saints, Irénée de Lyon, qui est peut-être le premier théologien, si l'on peut dire après les évangélistes, dit que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, et que la vision de Dieu est ce pourquoi l'homme est fait. Et d'une certaine manière, il y a une grandeur qui se révèle dans le face-à-face avec Dieu. Et c'est vrai que le premier moment est un moment de tremendum, de crainte par rapport à l'immensité, la grandeur de Dieu. Et un jour, j'entendais une religieuse qui disait cela. Je ne savais pas très bien ce que c'était que le don de crainte jusqu'au jour où j'ai eu une expérience mystique. Et à partir de ce moment-là, j'ai enfin compris ce que cela voulait dire. Et ce n'était pas seulement, me disait-elle, une crainte filiale, quelqu'un qui ne veut pas déplaire à quelqu'un, mais c'est l'expérience de la grandeur immense de Dieu, mais qui, après ce tremendum, nous lève, nous relève. L'homme qui est à genoux devant Dieu, comme Moïse, finalement, il a ôté ses sandales, il est tombé comme face contre terre pour adorer le Seigneur, ou comme Pierre ou d'autres, mais Dieu relève l'homme qui est ainsi devant lui. Il en fait des hommes debout, et nous croyons tous, dans notre foi chrétienne, que nous serons debout quand viendra le Fils de l'homme, comme dit l'apôtre, pour la fin des temps.
Un petit point qui me vient, parce que je le vois dans cette partie du catéchisme, il est précisé, par respect pour sa sainteté, le peuple d'Israël ne prononce pas le nom de Dieu. Dans la lecture de l'Écriture sainte, le nom révélé est remplacé par le titre divin « Seigneur ». Adonai, comme tu l'as dit tout à l'heure, ou en grec Kurios.
Kurios,
oui. C'est sous ce titre que sera acclamée la divinité de Jésus. Jésus est Seigneur. Et de fait, il me semble peut-être important de dire que nous-mêmes, certaines de nos Bibles vont avoir ce mot Yahvé. C'est assez agaçant, à vrai dire, d'entendre réciter la Bible avec, en prenant ce mot-là, parce que je crois que oui. Pape Benoît XVI l'avait rappelé dans un texte, il me semble, assez récemment.
Oui, 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 qu'il faut mieux ne pas l'utiliser, parce que d'abord, c'est qu'une hypothèse de lecture. J'entendais des témoins de l'école biblique et archéologique de Jérusalem qui disaient qu'il y avait peu de chances que le nom qui était vraiment prononcé, puisqu'on l'a prononcé quand même pendant plus de 1100 ans, ce nom, entre la période sous la tente, quand ils étaient après que Josué pu pénétrer dans la Terre Sainte et se soit installé sur du côté du mont Garizim, puis après ça la transfert à Jérusalem à l'époque du roi David. Ça durait quand même jusqu'au grand prêtre Siméon, qui est le 30e dans la lignée des grands prêtres depuis Aaron, et on a encore le souvenir dans le Talmud du souvenir du dernier qui murmurait le nom de Dieu, et il le disait un peu inarticulé pour que ce soit pas trop fort, mais il avait encore le devoir de le dire. Donc on l'a dit tardivement pendant plus de 1100 ans, ce nom. Et il reste assez mystérieux. Jéhovah, on a dit au 19e siècle, Yahvé au début du 20e siècle, Yahovou peut-être dans l'école biblique et archéologique de Jérusalem, nous ne savons pas, il vaut mieux dire Adonai, le Seigneur, Kurios.